c'est 23h minuit, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour, Christophe Cessieux.
Nous sommes toujours à Marseille, ici, lieu d'arrivée de cette cinquième étape du Tour de France qui a donc été remportée par Mark Cavendish. Nous allons y revenir. Et puis, n'oubliez pas, demain, si vous êtes passionné de tennis, si vous aimez Marion Bartoli, eh bien, vous aurez l'occasion de l'encourager sur RMC puisque nous bousculons nos programmes et dès 14h, nous serons en direct dans l'Intégral Sport pour vivre à la fois la sixième étape du Tour de France et pour vivre cette demi-finale de Marion Bartoli. Tout cela demain à 14h. En attendant, c'est donc l'Intégral Tour de retour avec Cyril Guimard, le druide qui est en pleine forme quand il voit les sprinteurs, les tueurs du peloton se disputaient de telle manière, il est ravi. Salut Cyril.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Thierry Bourguignon, lui, il n'aimait pas trop frotter, mais enfin, il est toujours avec nous quand même. Il aura son œil acéré sur ce qui s'est passé tout à l'heure dans le sprint. Salut Thierry.
Oui, bonsoir. Vous ne m'avez pas encore lâché, hein, même si ça frotte, mais je suis toujours là.
Très bien. Et puis Luc Leblanc va nous rejoindre dans un instant. Tout de suite, on revient donc sur le direct. C'était tout à l'heure sur l'antenne d'RMC avec cette victoire de Mark Cavendish, 24e victoire d'étape sur les routes du Tour. C'est tout simplement énorme.
RMC, le 100e Tour de France.
Thomas Degent qui surveille comme l'huile sur le feu. Désormais, Kevin Reza, les quatre sont à nouveau ensemble, mais l'entente ne semble plus cordiale du tout entre ces quatre-là.
Ouais, et leur avance est quand même encore assez importante. 2 minutes, Cyril, 2 minutes d'avance pour les quatre hommes de tête. Il y a donc ce col de la Ginette, comme dirait notre ami Georges. Et ensuite, il y aura la descente.
Très, très bon.
Ils vont perdre oui, du temps dans la montée, là, mais...
Il est clair que le peloton a mal géré son affaire. Plusieurs fois, j'ai dit qu'il fallait absolument mettre un peu plus de monde en tête de peloton parce qu'il y avait ces deux descentes. Et quand on avait un écart de 3 minutes à 28-30 km de l'arrivée, il n'y avait plus en fait que 5 km d'ascension. Et là, on est au pied de la Ginesse. L'écart est encore de plus de 2 minutes. Il va falloir que dans la montée de la Ginesse, le peloton reprenne pratiquement au minimum 1,30 sur les 4 hommes de tête qui conserveraient donc encore au sommet plus de 40 à 50 secondes. Et à partir de ce moment-là, pratiquement, ça ne sera pas possible d'aller les chercher.
Ouais. Donc le coup est... Non, Lucho n'est pas du tout d'accord avec Cyril. On verra qui des deux a raison.
Non, je pense que même si les échappés basculent avec une minute, à un moment ou à un autre, de toute façon, ils vont se désorganiser comme ils sont en train de le faire dans le col de la Gineste. Et en plus de cela, aux abords de l'arrivée, ça se regarde toujours un petit peu. Ça se regarde toujours un petit peu. Et il faut savoir une chose, c'est que quand on prend la longue ligne droite du vélodrome, la minute... les coureurs, le peloton, ils les ont au point de mire, même au-delà de la minute, même s'ils ont 2 minutes d'avance, le peloton les voit en point de mire. Mais même s'ils passent avec les minutes, moi je te dis, Cyril, ils vont se faire rejoindre.
D'accord. Non, mais tout est possible. Mais pour l'instant, ils ont énormément joué avec le feu. Mm-hmm. Parce que dans toute la descente, le peloton, d'ailleurs, on l'a vu dans la dernière descente, là, sur le col de Roque-Bruissane, le peloton n'a pas repris une seconde sur l'ensemble de la descente.
Accélération en tête de peloton à 2 minutes. Exactement derrière les échappés, c'est Sébastien Minard, le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, qui vient hausser le ton à l'avant du peloton et qui vient relayer les Orica Green Edge du maillot jaune Simon Guérin. C'est les Argo Shimano de Marcel Kittel, déjà vainqueur d'étape l'autre jour à Bastia. Sébastien Minard qui accélère sans attaquer, peut-être veut-il faire les affaires d'un certain Samuel Dumoulin qui a déjà remporté le Grand Prix d'ouverture la Marseillaise et qui aime ce col de la Ginette, qui a prouvé à de nombreuses reprises qu'il était capable de franchir cet obstacle. C'est le Tour de France, c'est bien sûr une autre course, mais Dumoulin peut penser à la victoire si l'écrémage se fait au niveau des sprinteurs dans la Ginesse.
Voilà. Oulala,
chute à l'avant du peloton qui a concerné une vingtaine d'unités qui est là, a priori des coureurs de l'équipe Omega Pharma. Il n'y a pas de Cavendish. Peut-être que Marcel Kittel a été touché. La bonne nouvelle pour Cavendish, c'est qu'il était dans les toutes premières positions. Et cette chute qui est intervenue à la hauteur du 20e coureur du peloton n'a pas mis à terre Mark Cavendish ni Peter Sagan.
Mais ils ont peut-être été retardés. Hein.
Pierre Roland a été retardé. Ouais. On va faire les comptes, on va faire les dégâts.
Ok, tout le monde se relaie.
Marcel Kittel a été pris dans la chute. Marcel Kittel, vainqueur de la première étape. Et un coureur de l'équipe Garmin apparemment a du mal à se relever. Il s'agit non pas de Ryder Regional, mais de Christian Vandevelde. C'est un coureur de l'équipe BMC qui est tombé. Marcel Kittel aura bien du mal à faire la passe de 2 et à doubler ici à Marseille, Borély. Mais le peloton est reparti à très vive allure. On n'attend pas évidemment les coureurs attardés.
Ah, sauf Pierre Roland quand même. Hein. Pierre Roland qui est attendu, non ? Il y a un de ses équipiers à côté de lui, un ou deux.
Mais le peloton, évidemment, n'attend pas. Ah, on est à 15 km de l'arrivée.
Marcel Kittel, Luc, tu te semble avoir vu Marcel Kittel ?
Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais je vois ses coéquipiers rouler.
Alors, il ne roule pas pour Marcel Kittel, il roule pour John Degenkolb.
Eh il y a deux sprinteurs dans la formation.
On a deux sprinteurs chez Argos Shimano, effectivement. Les Argos sont relayés à l'avant du peloton dans la chasse menée par les Omega Pharma Quick-Step de Mark Cavendish. On voit également les Sky qui ont bien compris qu'il y avait du danger à frotter au sein du peloton avec cette chute dans laquelle ont été pris Christian Van de Velde, l'Américain, Marcel Kittel, le sprinter allemand, et Pierre Roland, le maillot à poids de meilleur grimpeur, le jeune Français deux fois top 10 du classement général, le leader de l'équipe Europcar qui a été attendu par trois de ses équipiers et qui rentre à l'instant dans le peloton. Pierre Roland qui n'était pas tombé, qui avait été obligé de mettre pied à terre, simplement attardé, pas de dégâts. Les Orica Green Edge sont toujours à l'avant du peloton en train de relayer les équipes de sprinteurs. Les Orica Green Edge qui bien sûr protègent le maillot jaune de l'Australien Simon Gerrans. Orica qui a perdu son sprinter Matthew Goss attardé à l'arrière du peloton.
Le suspense continue évidemment sur RMC dans l'intégral tour pour cette victoire d'étape. Ils ne sont plus que deux en tête mais avec très peu de secondes d'avance, Fred.
Lutsenko Reza, Lutsenko Alexei de son prénom, Kazakh de l'équipe Astana, champion du monde espoir en titre, vainqueur d'une étape de montagne sur le dernier Tour de l'Avenir. Il vient d'emmener dans la descente le jeune néophyte de l'équipe Europcar, Kevin Reza, guadeloupéen, âgé de 25 ans. La jeune garde est en train de prendre le pouvoir dans cette cinquième étape et elle devance de quelques secondes le belge Thomas De Gendt et le japonais Yukiya Arashiro à l'avant du peloton à 9 500 km de l'arrivée. Sylvain Chavanel qui est à une seconde du maillot jaune, Simon Gerrans tente de faire la différence. Il s'est porté en tête, mais cette descente n'est clairement pas assez technique, beaucoup trop roulante pour creuser des écarts, et il ne parvient pas, Sylvain Chavanel, spécialiste des descentes, à faire la différence. Il ne sera pas maillot jaune ce soir ici à Marseille.
Ah, c'est bien dommage pour Sylvain Chavanel, mais effectivement cette descente n'était pas assez technique pour lui permettre de s'échapper, et effectivement il a peut-être joué le jeu d'équipe, car derrière, eh bien, ça revient, et notamment son leader pour les sprints, Mark Cavendish, qui va tenter de décrocher son premier bouquet sur Tour de France 2013. Nous sommes à 8 500 km de l'arrivée et les choses vont être claires parce que les deux hommes de tête sont quasiment repris. Ils conservent tout de même une grosse quinzaine de secondes d'avance, Fred.
Ils ont plus de 220 km d'échappée, ces deux jeunes coureurs, 21 et 25 ans, Lutsenko et Reza. Ils comptent 12 secondes d'avance sur un peloton où l'on trouve les sprinteurs Cavendish, Sagan, Greipel ou encore Degenkolb. Rappelons que Marcel Kittel a lui dû rendre la main. Autre sprinter présent, le russe Alexander Kristoff de l'équipe Katyusha. À l'avant, Lutsenko tente de fausser compagnie à Kevin Reza.
Voilà, mais il n'y parviendra pas, et puis surtout le peloton les a désormais en ligne de mire.
Effectivement, tout est en train de rentrer dans l'ordre puisque l'échappée est terminée. Le peloton est à nouveau groupé.
Voilà, ça aura duré 224 km.
Oui, alors
ça,
je vais vous rassurer sur la position de Boigny, puisqu'il est à peu près en 20e position dans ce peloton.
Il est là.
Et pour la petite histoire, vous savez que Lutsenko a été champion du monde. Il était champion du monde devant un Français, Brian Coquard. Oui. Il l'a battu d'ailleurs pour une petite dizaine de centimètres sur le championnat du monde de Valkenburg.
Voilà, en tous les cas, on est rassuré pour Nasser Bouhanni, le Lorrain, qui était en difficulté en début d'étape et qui s'est refait la cerise et qui va peut-être donc pouvoir disputer ce sprint et essayer de se mesurer au cador des sprinteurs comme Cavendish, comme Greipel, comme Kittel. Donc Kittel n'est plus là. Le favori de Luc Leblanc a été retardé tout à l'heure sur la chute. Nous sommes dans Marseille, Fred, dans les grandes lignes droites, sur les grands boulevards bien larges. Ce sont des endroits pratiques pour les sprinteurs, hein, les grands boulevards de Marseille.
C'est exactement ce qu'il faut, et l'organisateur du Tour de France a parfaitement dispatché, savamment dosé le parcours avec un peu de tout pour tout le monde, et effectivement cette arrivée ne posera a priori aucun problème pour les équipes de sprinteurs qui s'organisent pour l'instant à merveille avec on l'aperçoit, le maillot orange de l'équipe Euskaltel qui compte dans ses rangs un certain Izagir qui va vite, mais ce n'est pas du tout un top sprinter. C'est pour cela que les Omega Pharma sont toujours à l'avant pour Mark Cavendish. On aperçoit les vacances soleil du Benjamin du Tour de France, Danny Van Poppel, pas encore 20 ans et qui avait pris la troisième place du premier sprint à Bastia. On est à 2 km 300 de l'arrivée. Le peloton qui négocie un virage à près de 90 degrés. C'est Sylvain Chavanel qui emmène le peloton avec son beau vélo orange.
Ah, Sylvain Chavanel, on ne peut pas dire qu'il soit aidé par ses équipiers dans les classiques de printemps, mais il ne donne pas sa part au chien, Lucho, quand il s'agit d'aider ses leaders. Hein. Ça, c'est pour un garçon de son talent et de son palmarès, se mettre comme ça à la planche pour un leader, pour un sprinter, c'est chouette quand même. Hein. Il mérite son salaire, hein, le garçon.
Oui, bien sûr. Puis c'est le retour. Hein. Ses équipiers se mettent à son service dans les classiques.
Pas trop.
Un petit peu quand même. Enfin bon, sinon, il ne serait pas resté dans cette équipe encore. Donc, le fait qu'il fasse le boulot pour Cavendish, ça prouve qu'il y a une très très bonne ambiance et que ce Sylvain Chavanel se sent très bien dans l'équipe. Et puis on va voir un petit peu s'il arrive à emmener jusqu'au bout Cavendish et que Cavendish va peut-être remporter sa première étape aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il y a quand même pas mal de sprinteurs devant.
La flamme rouge du dernier kilomètre et le sprint commence à se lancer. Julien Simon qui est passé à une seconde du maillot jaune effectivement.
Exactement.
Mais aujourd'hui c'est râpé pour lui. En revanche, la grande bagarre du sprint va pouvoir se lancer dans quelques instants. Il y a deux bandes, une sur le côté gauche de la route, l'autre sur le côté droit. Greipel est bien placé, les hommes de Cavendish également sont là pour le protéger. Bref, ça va être un sprint royal, Fred.
Encore deux équipiers à 800 mètres, 500 mètres maintenant. Deux équipiers pour emmener Mark Cavendish pour le propulser vers une nouvelle victoire d'étape. Gerd Stegman, c'est le dernier poisson pilote pour lui, alors qu'un coureur de l'équipe Lotto vient de prendre la tête à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Le sprint est lancé par l'intermédiaire du grand belge Gerd Stegman avec son leader Mark Cavendish dans la roue. Mark Cavendish qui, ça y est, prend la roue et lance le sprint à 200 mètres de la ligne. Mark Cavendish, tel un bolide, qui se met en position de profil idéal pour remporter sans aucun problème sa première étape sur le Tour de France.
Et
derrière,
une chute en milieu de peloton.
On est tombé avec peut-être Nasser Bouhanni qui a été pris dans cette chute. Une chute monstrueuse, pendant qu'à l'avant, s'expliquait entre pur sprinter. Et bien voilà, la première semaine du Tour de France est fidèle à elle-même. Maxime Bouet est à terre, mais n'a aucun mal a priori. A priori, elle est intervenue à vitesse grand V, évidemment. On était dans l'emballage final à plus de 60 km/h. Jürgen Vandenbroeck, le coureur leader de l'équipe Lotto pour le classement général, reste au sol. Il n'y aura pas de cassure au classement général car on était dans les trois derniers kilomètres. Victoire de Mark Cavendish.
Pierre-Yves Leroux est derrière la ligne d'arrivée. Pierre-Yves, est-ce que tu en sais plus sur la chute?
La chute, mais sur une info importante qu'on a évoquée pendant cet après-midi. J'ai vu Simon Gerrans et Impi l'un à côté de l'autre, juste derrière la ligne. Donc, à mon avis, ils ont essayé de passer la ligne ensemble, en fait, pour pas qu'il y ait de changement au classement général. À vérifier dans quelques instants.
Pierre Roland semble avoir été pris dans la chute, Fred. Il a l'air. Il est remonté sur son vélo, mais il regarde un peu les dégâts occasionnés.
Rien de cassé pour Pierre Roland, a priori.
Pierre arrive avec Alberto Contador.
Pero bueno, es complicado, resulta complicado llevar la mano encima del manillar, entonces hemos decidido que estuviera hoy a cola para que vaya recuperándose poco a poco.
Alberto, gracias.
Allez, c'était dit une journée difficile. Mais mon niveau qui avait été amputé, amoindri par la chute du premier jour, s'améliore de jour en jour.
Ok, Mark Cavendish, vainqueur donc de cette cinquième étape, l'Express de l'île de Man, qui a donc remporté de main de maître cette étape. Il n'a eu aucun mal à triompher des autres sprinteurs. Il a montré qu'il était le cador, qu'il restait le cador, qu'il restait l'homme le plus rapide sur un sprint massif. Mais évidemment, l'important, c'est de savoir si des garçons ont été victimes dans cette chute, grosse chute intervenue donc à quelques mètres de l'arrivée. On a vu notamment Pierre Roland, le grimpeur français, porteur du maillot à poids de meilleur grimpeur, retardé. On ne sait pas s'il a chuté. Il y en a peut-être d'autres. Tu nous disais tout à l'heure Nasser Bouhanni peut-être. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Non, pas vraiment. Arthur Vichot a été retardé. Il vient de franchir la ligne, mais a priori pas de gros dégâts. Mais beaucoup de coureurs, Fred, retardés par cette chute.
Hein. Oui, Cavendish qui s'impose devant le Norvégien Edvald Boasson-Hagen et Peter
Thibaut
Sagan.
Thibaut Pinot est aux côtés de Pierre-Yves Leroux derrière la ligne d'arrivée.
Thibaut, juste un mot déjà sur la fin de l'étape, là, sur la chute, sur le sprint. Est-ce que vous avez avez pu y échapper ?
Ouais, j'étais juste derrière, donc j'ai pu échapper. C'est vrai que dans les derniers kilomètres, on prend ses distances avec les coureurs devant, car ça chute très souvent sur le tour, donc il faut faire attention à ça. Il ne faut pas avoir peur d'être un peu derrière pour éviter les chutes, parce que c'est dommage de chuter et puis perdre le tour comme ça. Donc il y a Nasser qui est tombé, j'espère que ça ira.
On a vu sur la dernière difficulté Arthur Vichot emmener le peloton avec vous dans sa roue, avec Pierrick Fédrigo également. C'était prévu ça, il fallait aussi vous protéger avant la dernière descente.
Ouais, c'est ça, c'est me protéger et puis d'éviter des cassures dans la descente et sur le boulevard, parce que une fois qu'on est sur le boulevard ça va très vite. Donc l'objectif c'est de me protéger et puis voilà, puis c'est très bien passé. Voilà.
Mission accomplie.
Voilà, mission accomplie encore demain et après on pourra voir les Pyrénées.
Merci Thibaut qui va prolonger un petit peu la route, virer sur la gauche et puis retrouver le bus de la FDJ.fr.
Le nouveau taulier de la FDJ.fr, Thibaut Pinot, qui s'affirme vraiment comme le leader et comme le patron de cette formation de la FDJ. Il nous a donné une information. Donc Nasser Bouhanni a bien été pris dans la chute et on a vu le maillot de champion de France d'Arthur Vichot également pris dans la chute collective, intervenu à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Pour Bouhanni, c'est décidément un début de tour difficile. Il est en apprentissage aussi. Ah, on était avec Thomas Vauclair. Pierre Yves avec Thomas Vauclair.
Thomas qui rejoint le petit stand pour prendre une bouteille d'eau. Thomas, est-ce que vous étiez pris dans la chute là sur cette arrivée? Est-ce que vous avez réussi à échapper à cette dernière difficulté de l'étape?
Je suis tombé dans la chute qui a eu lieu dans la dernière ascension là. Quand il y avait encore Yukiya et Kevin devant là de chez nous, de l'équipe Europcar. Donc on était en embuscade juste derrière, moi je suis tombé avec Pierre et David Veilleux, je crois, on est tous les deux trop... Bon, sans gravité, on a pu repartir, on a dû faire un effort pour boucher le trou. Mais... Et à la fin, bon, on était vraiment en queue de peloton et on a eu le temps de freiner.
Voilà, mais c'est encore nerveux, on le sent dans ces premières étapes.
Aujourd'hui quand même, ça a été, après sur le parcours, vu que l'échappée, on avait encore pas mal d'avance, il a fallu rouler très vite derrière et... Et puis ben, c'est des routes sinueuses, hein. Voilà, après l'arrivée, ça s'est rétréci à 400 mètres la route, donc ça a dû quand même surprendre les... Puis il y a de tels enjeux que, bon, on sait bien que les sprinters, ils ont peur de rien, quoi, donc ils y vont, c'est... Des fois, enfin, moi, j'aurais pas le courage d'y retourner quand on s'en prend une bonne comme ça, mais bon, c'est... Une catégorie à part, ils y retourneront demain encore.
Et on a vu l'équipe devant une nouvelle fois, l'équipe Europcar avec Kevin Reza et avec Yukiya Arashiro. Comme depuis le début de ce Tour de France, vous essayez d'être au premier plan.
Oui, voilà, on essaye et on essaye parce que un Tour de France, c'est quand même une des rares courses, quoi qu'on en dise. Ceux qui disent l'inverse font un petit peu de langue de bois, où ça sert à quelque chose d'être devant, même s'il n'y a pas beaucoup de réussite, pas beaucoup de chance d'aller au bout. Aujourd'hui, on avait deux coureurs devant, c'était pas forcément programmé, ça s'est fait comme ça. À un moment, quand il y avait quand même 12 minutes avec Yukiya qui était à 3 minutes au général, on aurait pu y croire, parce que des choses qui me sont arrivées, comme en 2004, quand j'ai pris le maillot jaune, bon, ça n'arrive pas qu'à moi, donc faut provoquer la réussite, ça n'a encore pas été pour aujourd'hui, pourvu que ça soit pour une autre fois.
Peut-être pour demain. Merci beaucoup Thomas Vauclair, Et a eu la gentillesse de s'arrêter comme un certain nombre de coureurs. Le peloton est passé moins vite que d'habitude sur un sprint massif. Avec ce qui s'est passé, évidemment, beaucoup de coureurs ont été ralentis, Christophe.
Et tu n'as pas vu de coureurs sérieusement amochés, Pierre-Yves ?
Pas pour le moment.
Pas pour le moment. J'ai vu là, quand même l'ambulance s'arrêter à l'arrière de la course.
Oui, alors il faut expliquer qu'en fait, on est, nous, maintenus à une centaine de mètres derrière la ligne d'arrivée. Qui est une zone qui est là justement. Je vois passer Nasser Bouhanni avec le mollet gauche bien abîmé, le cuissard abîmé derrière la cuisse gauche. Et tiens, je vais m'approcher de lui, on va pouvoir l'écouter. Nasser Bouhanni, le sprinter de l'équipe FDJ.
On est dur pour moi. La chute en plus au sprint, et voilà, journée de merde.
Comment tu as vécu cette journée complète à l'arrière? On t'a vu aller constamment voir le médecin avec les problèmes que tu as au ventre.
Ça fait 3 jours, j'ai une gastro, j'ai plus de force, c'est vraiment dur pour moi.
Là, tu termines vraiment au courage. Ouais. C'est Kalan Nasser pour terminer quand même.
On verra les autres jours.
Nasser Bouhanni qui, voilà, vous l'avez compris, veut pas s'exprimer. Le moral est au fond des chaussettes. La mine des mauvais jours avec... ces 3 jours de difficultés qui s'enchaînent et là on sent bien que le Tour de France pourrait bien se terminer rapidement pour Nasser Bouhanni s'il ne retrouve pas des forces rapidement.
RMC jusqu'à minuit, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du Tour. Christophe Cessieux.
Première semaine du Tour est fidèle à l'habitude, à savoir des étapes qui s'achèvent au sprint et des étapes qui s'achèvent également par des chutes. Il y en a eu deux demain. On prendra tout à l'heure des nouvelles de Nasser Bouhanni qui a été l'une des principales victimes de cette gamelle intervenue donc dans l'emballage final. Mais devant, eh bien Mark Cavendish cette fois-ci a évité la chute, a évité les incidents techniques pour remporter sa 24e victoire sur les routes du Tour. C'est tout simplement énorme. Lui qui a débuté le Tour de France en 2007, il est là tous les ans. Chaque fois qu'il y participe, il remporte au moins deux étapes, donc déjà une dans la boîte, peut-être une autre demain. On va en parler avec Cyril, avec Thierry, avec Lucho. Cyril, dans ce genre de sprint, quand il est bien lancé par ses coéquipiers, il est imbattable et va le rester encore longtemps, hein, parce que cette bonne vitesse est impressionnante.
C'est vrai qu'il n'a pas 40 ans. Hein.
Non, il a 28 ans. C'est un jeune homme encore.
C'est encore un jeune homme et il est maintenant au sommet de son art. Sur le plan physique d'une part, mais également au niveau du métier. Et puis il a eu du mal un petit peu en début de saison à régler cette équipe pour lui emmener les sprints. Plusieurs fois il a été un petit peu bougon parce que c'était pas ce qu'il avait l'habitude d'avoir les années précédentes et surtout à la Sky. Et donc là il s'est retrouvé avec une équipe maintenant qui est parfaitement bien rodée. Et quand il est lancé, lâché, je vais dire aux 200 mètres, aujourd'hui, personne ne peut le remonter ou leur ferait vraiment un gros vent de face.
Mmh. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'il est le plus fort? C'est quoi? C'est qualités naturelles ou alors c'est...
Oui, non, ce sont des qualités innées. Les qualités de sprinter, on les invente pas.
Ouais. On ne devient pas sprinter.
Non,
on
ne devient pas sprinter parce que
on peut travailler dans le contre-la-montre. On peut devenir un meilleur rouleur, mais
on peut augmenter sur le contre-la-montre. Enfin, dans tous les autres domaines, on peut augmenter par l'entraînement. On va dire ça VO2 max. C'est-à-dire sa consommation maximale d'oxygène, c'est-à-dire augmenter la cylindrée de son moteur. Le sprint, c'est lié à la décharge d'adrénaline, mais il faut aussi, sur le plan physique, avoir beaucoup plus de fibres rapides que de fibres lentes, car on n'a pas la même structure musculaire. Les sprinters ont pratiquement les deux tiers de leurs fibres musculaires qui sont des fibres rapides, c'est-à-dire qu'elles ont des capacités anaérobies absolument extraordinaires. En règle générale, ils ont aussi des muscles très toniques et donc ils ont une puissance explosive extraordinaire. Et Cavendish fait partie de ces super doués du sprint.
Voilà, Thierry, pour toi c'est le plus grand, c'est le plus fort de tous les temps, Mark Cavendish. Bon, évidemment, c'est toujours difficile de comparer les époques, mais un garçon comme Darrigan, un garçon comme Cipollini, est-ce qu'ils étaient du même niveau finalement que Cavendish?
Bon, du même niveau, je pense que c'est à peu près similaire. Mais là, franchement, comme disait Cyril, il n'a que 28 ans. Que 28 ans, déjà 25 étapes sur le Tour, il risque de ne pas s'arrêter là. Hein, puisque
non, il peut
chaque
aller jusqu'à
année,
40.
C'est... Oui, voilà, parce que aujourd'hui, on va quoi? Cette année, il va encore en gagner 5, voire 6. Et puis, il en a encore pour quelques années.
Mm-hmm. Alors, disais...
C'est un grand, et puis... Et quand il gagne bien, il ne gagne pas avec un centimètre.
Ah oui, c'est ça. Là, il n'y avait pas un demi-boyau d'écart. Il les a tous laissés à une longueur. Ça doit être déprimant quand même pour les adversaires de Cavendish. Quand ils voient une telle domination, Cyril, ça fait mal au moral hein, pour Greipel et les autres. Ils se disent que pour le battre, il faut qu'il se passe quelque chose d'autre dans le sprint. Parce qu'à la régulière, il est imbattable.
Bien, lorsqu'il est emmené, hein, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants, lorsqu'il est emmené comme ça et lâché à moins de 200 mètres de la ligne, ça n'est pas possible de pouvoir le remonter. Donc, si on veut avoir une chance de le battre, il faut qu'à un moment ou à un autre, il perde des équipiers beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se retrouve esselé aux 300 ou aux 400 mètres. Et encore, ce n'est pas toujours facile de le battre parce que c'est arrivé, on l'a vu d'ailleurs sur le Tour l'an dernier, où il se retrouvait très rapidement sans équipier parce que beaucoup d'équipiers travaillaient aussi pour les deux leaders de l'équipe, c'est-à-dire Wiggins et Froome. Et donc, il était souvent un petit peu seul. À ce moment-là, il se mettait dans la boîte, il attendait, il venait sauter pour finir. Mais lorsqu'on joue en deuxième rideau dans la boîte, eh ben, la boîte elle s'ouvre pas toujours obligatoirement, et là vous pouvez vous faire battre. Mais dans un sprint comme aujourd'hui, je pense que pour tous ses adversaires, les Greipel, Duggan Kolb, Kittel n'était plus là puisqu'il avait été victime d'une chute dans la montée de la Gineste, il y a un sentiment d'impuissance et par voie de conséquence d'admiration aussi pour les qualités du CAV.
Mmh. Alors tu disais tout à l'heure que il râlait en début de saison parce qu'il avait peut-être pas tous les équipiers à son service. Aujourd'hui il y a des grands noms de l'équipe qui se sont mis au service de Cavendish, notamment Sylvain Chavanel, et je suis peut-être pas d'accord avec toi parce que l'année dernière, rappelle-toi, il était pas très heureux de sa situation, Marc Cavendish, tout tournait autour
du maillot jaune.
On a même l'impression qu'il traînait sa misère, mais aujourd'hui il a retrouvé le goût au vélo, le goût à ses sprints. On le voit beaucoup plus souriant que les années précédentes, parce que bon, on peut pas dire que ce soit un garçon facile d'accès, hein. c'est un cabochard, tête de cochon.
Oui, bah, il traînait sa misère, il a gagné combien d'étapes l'an dernier, malgré ça il a quand même remporté ses 4 victoires.
Oui, presque tout seul,
un peu sur le final, Wiggins de temps en temps, les équipiers essayaient une fois que le tour était fini, enfin pour le classement général qui n'avait pas d'enjeu. Même Wiggins, on l'a vu des fois se mettre en tête au kilomètre et emmener Cavendish. Oui, c'est vrai qu'au début de l'année, d'abord quand on rentre dans une équipe, il faut s'imposer. Il faut imposer son caractère, son charisme, et puis s'imposer aussi physiquement. Et il faut pas. Attendez, on ne devient pas chef, on ne devient pas patron, on n'a pas le respect de tous ses équipiers. Puis il faut aussi un petit peu d'affect, donc il faut finir par se faire aimer par ses équipiers. Et donc au début de l'année, c'était pas évident. C'est pas évident de rentrer dans une équipe en plus belge et composée d'un maximum de Flamands, même si nous avons deux Français dans cette équipe. Ça a été difficile dans un premier temps. On l'a vu sur Tirreno Adriatico, il n'était pas content. On l'a vu aussi à Milan-San Remo, il n'était pas content du tout par rapport au travail de son équipe, parce que dans son équipe il y avait une autre tête d'affiche, c'était Tom Bonen. Et vous savez très bien, je le dis tout le tour, on ne peut pas avoir deux cerfs, 10 corps dans le même troupeau. Donc, il y avait aussi Tom Bonen qui vivait très mal cette concurrence avec Cavendish. Et Tom Bonen, à un moment, a explosé. Donc il s'est mis complètement en retrait. Alors on va dire chute, maladie. Bon, mais tout ça, ça fait partie aussi du système. Et donc Cavendish a pris le pouvoir. Il a maintenant toutes les cartes en main. Et les équipiers, eh bien, ont laissé tomber Tom Bonen et se sont mis au service de Cavendish.
Et voilà. C'est un peu. Oui, Thierry.
Oui, je voulais rajouter. C'est un peu normal qu'au début d'une saison, tout nouveau. Il y a un certain rodage qu'il y a eu, et pour que les équipiers lui fassent confiance, bon, la confiance, de toute façon, il s'est imposé tout de suite. Quand on a un Cavendish qui arrive dans une équipe, on sait qu'on va rouler pour lui, et que généralement, si on l'emmène bien, ça gagne à la fin. Donc ça se passe relativement très bien de suite, mais il y a les automatismes qui sont là à prendre. Et c'est pour ça que ça met un peu de temps.
Ouais. Ça se passait pas si bien que ça avec Tom Bonen. Il suffit de reprendre quelques déclarations de Tom Bonen.
Ah ben oui, mais l'autre, il a vu arriver un coq dans sa basse-cour. D'un seul coup, ça fait mal.
Il ne faut pas dire que ça se passait bien. Faut pas dire que ça se passait bien. Ça a grincé dans les gonds. Hein. Ouais.
Alors,
non,
quel
c'est
genre
normal. Il y a deux grands chefs. Ouais. C'est normal.
Il y en a un qui doit tomber.
Il y en a un qui est tombé, comme tu l'as dit. Il y en a un malade.
Ouais. Alors, quel genre de mec est-il, notre ami Cavendish? C'est vrai qu'il a quand même une très mauvaise réputation. Je me rappelle qu'on avait fait des débats sur son caractère et sur sa façon de conduire les sprints il y a de cela quelques années. Mais
sur son comportement.
Son comportement, parce que
quand vous faisiez à une époque, rappelons-nous.
Le sprinter.
Oui, mais enfin, quand tu faisais des bras d'honneur ou que tu crachais au pied des autres coureurs, il a d'ailleurs été rappelé à l'ordre, y compris par sa propre équipe.
Ouais. Alors, Sylvain Chavanel, qui est donc le coéquipier de Marc Cavendish, nouveau coéquipier de Marc Cavendish, c'est quel genre de mec le CAV?
C'est le meilleur sprinter actuel. Voilà, quand tout se passe correctement, il est pratiquement imbattable. Donc voilà. Mais c'est quelqu'un de très bien. Et puis avec Jérôme, on est là pour lui apprendre le français.
Voilà, ils sont là pour lui apprendre le français. Et un autre français, justement, qui est chargé de sa garde, c'est son poisson pilote, c'est Jérôme Pinault, plutôt son garde du corps. Tiens, ou peut-être sa nounou d'ailleurs, Jérôme Pinault.
Sa nounou, je ne suis pas sa nounou, je suis son équipier, son grégario, un peu à l'ancienne, on va dire. Je réponds à ses demandes, voilà, après je ne lui lave pas son linge, hein, mais sur le vélo je suis à son service, je crois qu'il a conscience d'avoir la chance de m'avoir auprès de lui, moi j'ai conscience d'avoir une énorme opportunité d'être auprès de lui, quand ça fonctionne comme ça, tout le monde est content, voilà, vous avez vu, même M. Lefebvre est très content, donc voilà, on est tous très heureux, allez, on va dire que c'est un soulagement parce qu'on commençait à, pas douter, mais on commençait à être impatient.
Voilà, et ça fait plaisir à toute l'équipe lorsque le sprinter, celui pour lequel on travaille tout au long de la journée et tout au long de l'année, remporte une victoire sur les routes du Tour, l'épreuve la plus médiatique et la plus belle au monde. Donc ils sont ravis, les coéquipiers français de Mark Cavendish. Ils seront peut-être encore ravis demain avec la deuxième étape au sprint, hein, probablement, oui. Avec l'arrivée à Montpellier. On en parlera tout à l'heure.
RMC, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du Tour.
On est à côté du Château d'If, tout de même, à Marseille, donc au terme de cette cinquième étape. On a évoqué le cas Cavendish. Abordons maintenant un cas un peu plus douloureux, celui de Nasser Bouhanni, le sprinter de la FDJ.fr qui faisait son entrée dans le Tour de France. C'est sa première grande boucle et malheureusement pour lui, ça se passe pas vraiment bien. Il a une nouvelle fois chuté aujourd'hui. On l'a vu également en difficulté tout au long de l'étape, retardé à l'arrière du peloton. Il souffre d'une gastro-entérite depuis 2-3 jours. Et en plus, à l'arrivée, il n'a pas eu de chance puisqu'il a été embarqué dans une chute, non qu'il ne provoque pas, ce n'est pas lui qui la provoque, on va en parler d'ailleurs un petit peu plus tard, mais il est victime de cette chute et il est donc rallié à l'arrivée avec beaucoup de difficultés. On va l'écouter, c'était tout à l'heure dans le direct, Nasser Bouhanni au bout du rouleau.
C'est dur pour moi, la chute en plus au sprint, voilà, journée de merde. Ça fait 3 jours que j'ai une gastro, j'ai plus de force, c'est vraiment dur pour moi, on verra les autres jours.
Voilà, au bout du rouleau, on
ça
sent
mal, hein.
Ah ouais, on
mal.
Sent presque les larmes qui sont toutes proches des yeux de Nasser Bouhanni. Georges Quirino nous a rejoint. Salut Georges.
Bonjour messieurs.
Alors, est-ce que tu as des nouvelles de Nasser? Parce que on l'a vu vraiment, on le sent en tous les cas dans ses propos, il est proche du bâchage, hein, de l'abandon.
Oh, je sais pas, on verra dans les prochains jours. En tous les cas, c'est vrai qu'on l'a vu très marqué quand il est arrivé au bus de la FDJ, déjà très énervé de voir beaucoup de caméras devant le bus. Il a un petit peu envoyé balader tout le monde. Bon, il découvre, hein, le Tour de France, Nasser Bouhanni, donc pas habitué à tout ce folklore médiatique. Il est rentré dans le bus, puis il est ressorti quelques minutes plus tard avec Gérard Guillaume, le médecin de l'équipe, qui l'a accompagné jusqu'au poste médical, bien obligé de l'accompagner parce qu'il avait bien du mal à marcher tout seul, Nasser Bouhanni, qui boitait. Il avait le cuissard déchiré au niveau du fessier gauche, également le mollet gauche brûlé. Il a eu du mal à marcher, il arrive jusqu'à ce poste médical où il est resté une trentaine de minutes, et puis il est sorti, il n'a pas vraiment voulu parler, mais c'est le médecin de l'équipe qui a donné de ses nouvelles. Quelques contusions seulement, pas de fracture, il devrait repartir demain, mais en tous les cas, voilà, on l'a revu ensuite, on l'a suivi jusqu'à sa voiture, on l'a vu prendre sa tête dans les mains, beaucoup de déception, comme dit expliqué le médecin de l'équipe d'ailleurs. Ce sera surtout la déception qu'il va falloir évacuer maintenant pour Nasser Bouhanni.
Cyril, le rôle d'un directeur sportif, d'un manager est important évidemment dans ces moments-là, quand on est au bout du rouleau, qu'il faut essayer de continuer. Merci Georges, qu'il faut essayer de poursuivre l'aventure. Est-ce que Marc Madiot justement et ses directeurs sportifs ont intérêt à le pousser à continuer, ou est-ce que quand on en arrive à un tel point qu'on est vraiment poursuivi par la malchance, il vaut mieux se dire bon, on va pas le griller, on va le faire arrêter. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Je sais que tu conseilles souvent Marc,
non,
même s'il a plus besoin de conseils maintenant,
il est
grand.
Ou qu'est-ce que je faisais,
ou qu'est-ce que tu faisais, oui.
Donc bon, alors c'est vrai, bon, le médecin a dit quelques contusions, il en a quand même quelques-unes, pas toutes au même endroit, mais il en a un peu partout, parce que la chute qu'il a prise est quand même une chute très violente. Il a bien tapé, il a bien roulé, donc il doit être râpé des deux côtés, devant et derrière. Non, il n'y a qu'une seule chose d'abord, dans un premier temps, bien sûr, c'est d'accompagner dans la souffrance le coureur, mais ensuite c'est le médecin qui décide. Le directeur sportif, il a d'abord un médecin, il est là pour ça, il est payé pour ça. C'est donc le médecin, en son âme et conscience, qui va dire si
il est en capacité de poursuivre ou s'il n'est pas en capacité de poursuivre. À partir du moment où il n'y a pas de points stratégiques touchés, c'est-à-dire articulation, déchirure musculaire ou fracture, bien sûr, tant qu'il n'y a que des brûlures, des hématomes, vous pouvez repartir. Aller au bout de l'étape, ça, c'est pas évident, parce qu'après, vous savez, on mesure véritablement les séquelles d'une telle chute, non pas le lendemain, mais surtout le surlendemain, parce que les courbatures vont s'augmenter pendant plus de 48 heures. Alors, il peut éventuellement passer l'étape de demain, l'étape de Montpellier.
Est-ce qu'il pourra arriver à Albi ? Il n'y a pas que les courbatures, il y a aussi la gastro, et ça vous retire toutes les forces. C'est presque la gastro qui est plus importante.
Les deux, la gastro, il va peut-être plus l'avoir.
Au bout d'un moment, ça s'arrête, ce genre de truc.
Ça va s'arrêter. Mais non, il y a... Bon, on sait sur une étape comme demain, dans la mesure où il n'y a pas de col, il n'y a pas de difficulté sur le parcours, dans les roues, au milieu du peloton, dans les abris, dans l'aspiration, même si dans le final ça roule trop vite, il peut décrocher, même s'il perd 10 minutes, ce n'est pas un problème, il peut passer l'étape de demain. D'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui, il a été en difficulté à une partie de l'étape.
Il s'est refait un peu la cerise à un moment donné.
Et puis, dans la nouvelle difficulté après le troisième classement de la montagne, eh bien, il est passé. Et j'ai presque envie de dire, c'est dommage qu'il soit passé, parce que s'il n'était pas passé, il n'aurait pas fait le sprint, il n'aurait pas chuté. Mais vous savez, c'est comme les sprinters, quand ils voient la flamme rouge du dernier kilomètre, bon, il y a la chair de poule qui vient partout, on a l'impression qu'on va soulever 300 kilos. Ouais. Et malheureusement pour lui, il y a eu la chute derrière. Mais c'est surtout après-demain qu'il faudra passer dans l'étape d'Albi, qui n'est pas obligatoirement très simple.
Plus casse-pattes. Lucho, tu lui conseillerais continuer quand ça s'embarque mal comme ça, un Tour de France, qu'on voit qu'on a la guigne, la malchance qui s'abat sur vous, que vous êtes blessé de toutes parts, que vous n'avez plus rien dans le ventre, plus de force, plus de mental, ça sert à quoi de continuer ?
Non mais la gastro, ça dure 3 jours. Moi j'ai eu la gastro en 96, donc je sais de quoi je parle.
T'en as pas eu depuis, ça va,
il faut résister pendant 3 jours, après ça passe. Bon, après c'est vrai qu'il y a la question chance sur le tour pour Boigny, qui n'arrête pas de chuter, mais bon, il est quand même entouré psychologiquement par son médecin Gérard, par Marc Madio, par l'encadrement aussi des soigneurs, des mécanos, et même de ses copains coureurs. Donc,
c'est un vrai travail d'équipe.
C'est un vrai travail d'équipe. Et donc, il se doit, par rapport à tout ce monde-là qui est autour de lui, de continuer le tour. Il va le continuer, même s'il souffre et qu'il a dit tout à l'heure, c'est une journée de merde pour moi aujourd'hui. Ouais. Mais
Thierry, on n'abandonne pas le Tour de France comme ça. Toutes les autres courses, on peut s'arrêter quand on ne va pas bien, mais le Tour de France, il faut vraiment se faire violence, essayer d'aller jusqu'au bout, surtout quand c'est le premier.
Je pense que si ça n'avait pas été le Tour de France, il aurait déjà bâché, je pense. Avec la gastro plus la malchance qui s'acharne contre lui, une autre course, on l'aurait vu peut-être abandonner.
RMC, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour. Christophe Cessieux.
Direct de Marseille, mais demain nous prendrons la direction de Montpellier. On va parier dans un instant à évoquer cette 6e étape qui nous attend demain entre Aix-en-Provence et Montpellier.
Les paris RMC, Tour de France.
Monsieur Benji, bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Aujourd'hui c'est une hors catégorie qui a donc remporté l'étape du Tour.
Oui, heureusement à 5 euros près, Virginie Fulpin prenait le maillot jaune à Luc Leblanc quand même, messieurs.
Ah oui, quand même.
Comment ?
À 5 euros près, elle a failli.
On va
la faire entrer dans le palmarès.
Elle arrive à l'instant même, Virginie, avec le sourire aux lèvres.
On l'intègre tout de suite dans notre bande de parieurs.
Si elle bat
Cyril, Thierry et Lucho.
Non, Virginie, tu restes tranquille.
Elle m'a chaud qui parle.
Il a très très peur pour son maillot jaune.
C'est la peur qui te fait parler, voilà.
Il est très très inquiet. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, Virginie est capable de parier sur Cavendish, même pour une étape avec arrivée à l'Alpe d'Huez et même double ascension de l'Alpe d'Huez. Elle est tellement fan de Mark Cavendish qu'elle est capable de tout. En tous les cas, bravo Virginie. Nous, on a voulu.
Je vous prenez ça bien. Ça me fait plaisir.
Voilà, on est pas.
Non, mais je suis désolé. Ils sont un petit peu mauvaise langue parce qu'ils n'ont pas assisté tout à l'heure à notre entretien. Sinon, ils ne parleraient pas comme ça. Ils ne savent pas que tu sais que par exemple le Duc a gagné plus d'étapes que le Cav.
Exactement.
Ah oui.
25.
25.
Et non pas 24.
Mais plus pour longtemps. Il va se faire passer sur le fil bientôt, notre ami.
Donc elle connaît peut-être mieux le vélo que nous.
Bah tiens, elle va se gêner. Elle va se gêner. Elle adore. Elle a surtout son bob cochonou sur la tête tous les jours à la rédaction.
On fait de la pub.
Ah oui, oui, oui. On peut de temps en temps. Alors, Benji, donc tu nous rappelles le classement tout de même de ces paris RMC. Luc reste en tête, mais son avance se réduit.
Luc Leblanc toujours en tête du maillot jaune, maillot vert, mais maintenant que Virginie a intégré le classement, il n'y a pas beaucoup d'avance au niveau du maillot vert, et puis pour le maillot jaune, ça joue à 5 euros.
Mais comment ça se fait parce qu'il avait, une plus grosse cote quand même, Kittel.
Oui, mais je te rappelle que tous les jours, tu perds 10 euros, Luc, quand tu n'as pas le bon pari. Donc,
Avant
eh oui.
Je reste pas sur 60 euros.
Sinon, c'est trop facile.
Non, mais je rêve. Alors, demain, donc c'est la 6e étape. Benji, entre Aix-en-Provence et Montpellier, on va en parler dans quelques instants. Donne-nous d'abord les principaux favoris de cette 6e étape. J'imagine que le nom de Cavendish revient en force après son premier succès aujourd'hui.
Ouais, il est favori et largement même 1,65. Du coup, ceux qui veulent jouer quelqu'un d'autre que Cavendish peuvent gagner énormément d'argent, puisque le deuxième favori c'est Greipel, mais la cote est quand même à 6. Après, c'est Marcel Kittel à 9,50. Alors, je vous disais avant les paris que le 5 c'était le chiffre porte-bonheur de Cavendish. J'ai regardé un petit peu les stats. Le 6 c'est le chiffre porte-bonheur de Sagan, et comme la cote est à 16, ça sera mon pari Peter Sagan.
Peter Sagan demain. D'accord. Peter Sagan pour Benji, ça fait beaucoup rire Thierry. Tiens, vas-y, au lieu de rigoler, toi. Vas-y, donne-nous ton vainqueur demain.
Je me marre parce que j'avais dit Cavendish. J'avais dit Sagan aujourd'hui. Demain, par contre, je dirais Cavendish parce que. Avec une étape toute plate comme ça, je ne pense pas que ça puisse l'échapper, à moins d'une échappée au long cours, mais qui aille au bout, je n'y crois pas trop.
Mm-hmm. Donc, ça manque de capitaine dans les échappées au long cours.
Oui, on a vu aujourd'hui.
Ouais,
c'était grandiose.
C'était grandiose. Donc, tu nous donnes Marc Cavendish avec une petite cote, mais bon, on ne sait jamais. De temps en temps, il faut se refaire un peu la santé, hein, Thierry. Hein, parce qu'on ne peut pas dire que toi et moi, on soit au top depuis le début de ce Tour de France. Mais on attend notre heure.
Si on parie autre chose, on est sûr de perdre.
Ouais, exactement.
Donc, Lucho, on va jouer petit, petit bras.
Lucho, non, Lucho d'abord, et on donnera la parole au druide ensuite.
Lucho. Bah écoute, je vais pas prendre de riz, je vais mettre Cavendish.
Ah ouais, d'accord. Tout le monde. Ah ouais. Là, c'est quand même, c'est un changement de situation, un changement de stratégie totale de la part de Luc Leblanc. L'an dernier, il partait dans tous les coups. Cette fois-ci, mais il est d'un classicisme.
Je maîtrise.
Confondant, désolant, quoi. C'est pas possible. Non, maintenant, t'as peur de Virginie. De toute façon, elle va parier Cavendish demain.
C'est une tactique. Voilà, c'est tout.
Ouais. Bon, le druide.
C'est vrai que jouer Cavendish, c'est une petite sécurité, voire une grosse sécurité quand on est en tête. Mais quand on n'est pas en tête, il faut prendre un peu plus de risques. Donc moi, je jouerai Greipel.
Ouais. Et ben moi, je vais suivre le druide parce que je suis dans sa roue. Là, j'espère un jour que ça va arriver.
C'est bon, mais
1,65, c'est ça, Benji. Ça vaut rien, quoi. Je préfère perdre encore 10
euros. Mais 0, c'est encore moins bien.
Je préfère en perdre 10 que de gagner quoi, 60 centimes, c'est ça. Non, pas grand chose. En tous les cas, je suis nul en maths. Très bien. Virginie, elle est toujours là? Non, elle est plus
là.
Bien sûr
qu'elle est là. Écoute. Là, je peux pas faire autrement. Hein. Puisque selon toi, je parie sur lui, même à l'Alpe d'Huez. Là, évidemment, sécurité et Brit Flair. Marc Cavendish,
très bien. Et ben voilà. Donc, ce sera Marc Cavendish demain. Demain, tout le monde, le peloton
viendra pas me rejoindre demain soir, puisqu'on a joué le même coureur.
Et pour un fois, elle s'est trompée de maillot, parce qu'elle a mis le maillot rose de. C'est le Tour d'Italie, Virginie.
Voilà, c'est ça.
Mais non, mais elle apprend. Elle est en apprentissage, Tour de France. L'année prochaine, elle sera avec nous sur les routes du Tour.
Virginie,
ça va la changer.
Oui.
Mets-toi dans la roue du druide et tu vas passer.
Et évite la chute.
Le maillot jaune.
Mais bien sûr, je vais passer le maillot jaune.
Très bien, merci Benji. Virginie, on te retrouve dans un instant. On va quand même étudier le profil de cette étape dans un instant.
PMU. PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Cyril, rapidement, à quoi ça ressemble? Donc c'est beaucoup plus plat qu'aujourd'hui, hein, cette étape entre Aix-en-Provence et Montpellier. C'est plus court également, ça part à 13h. C'est vraiment l'étape type pour les sprinteurs demain.
Type, vous savez, c'est la Camargue. La seule difficulté qu'il pourrait y avoir, c'est du vent, mais apparemment, on ne nous annonce pas des vents énormes, ce qui arrive souvent dans ces cas-là. Il y a une chose peut-être qui va non pas surprendre les coureurs, parce qu'ils savent ce qui les attend. On va avoir des températures à plus de 30 degrés.
Ah, effectivement, la canicule, la chaleur qui arrive.
À partir de Beaucaire, hein, Christophe.
Ouais, ouais,
le
ça,
vent.
Ça peut être dangereux. Et les moustiques aussi, il faut éviter les moustiques.
Oh, puis les cigales.
Merci, messieurs.
RMC, 23h minuit, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour.